Cédric Kahn, bonjour. Vous êtes le
Bonjour.
réalisateur du film Le procès Goldman à découvrir sur grand écran à partir de ce mercredi 27 septembre. Si vous le voulez bien, je vous propose de commencer par parler un peu du fond. Pour commencer, pouvez-vous tout simplement nous présenter votre film en quelques mots?
C'est le procès d'un activiste de gauche des années 70 qui est accusé d'avoir dérivé dans le banditisme et il est accusé de 4 braquages, dont un qui a entraîné la mort de 2 pharmaciennes. Il reconnaît les 3 braquages, mais il ne reconnaît pas celui où les 2 pharmaciennes ont été tuées. Et c'est tout l'enjeu de ce second procès en cassation, parce qu'il a été condamné à la perpétuité en première instance et que là, il risque vraiment la peine de mort.
Alors pour vous, quels sont les thèmes principaux au cœur de ce long métrage? Parce qu'il est très dense en termes de thématiques pour moi.
Il y en a beaucoup, ouais. Il y a le militantisme, il y a la sociologie des années 70, il y a la recherche de la vérité, le travail de la justice, la parole, la dialectique. Comment, faute de preuves, finalement, la justice, l'intime conviction des jurés se construit sur le langage. Et puis, il y a un thème, disons, deuxième ligne, mais qui est aussi très important, qui est cet héritage de la Shoah. En fait, c'est un fils d'immigrés polonais juifs qui ont été résistants, et lui, il est extrêmement marqué par cette histoire, ainsi que Kejman, son avocat. Voilà, ça les lie. Et en même temps, ils ont des destins très différents.
En effet. Alors moi, j'ai relevé 2 autres thématiques. Pour moi, c'est avant tout le portrait d'un homme complexe. Est-ce que je suis dans la raison?
Mais pour moi, c'est pas un film uniquement sur Pierre Goldman, c'est vraiment un film sur le procès. Mais c'est vrai que lui, si on parle spécifiquement de lui, ouais, il est complexe. Et c'est ça qu'il a d'intéressant. Il est multiple, il est insaisissable, il est très séduisant, très spirituel, très brillant. Il est aussi très provocateur, un peu destroy. Il est rock. Pour moi, il est rock. Hein. C'est un peu un punk avant l'heure.
Et il utilise beaucoup aussi l'éloquence comme une arme, je me trompe?
Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, il est très violent, très physique, il est décrit aussi comme très bagarreur, il s'occupait du service d'ordre quand il était aux jeunesses communistes, enfin voilà, c'est un sanguin, c'est un gars qui rêve de prendre les armes, c'est un type qui a envie d'être un héros, qui veut être à la hauteur de ses parents, qui ont été des militants communistes, des révolutionnaires, des résistants, et en même temps, il dérive. Il dérive dans l'alcool, dans la fête, dans la vie facile, et dans le braquage pour obtenir un peu d'argent, dans la voyouterie, quoi, comme on dit. Donc voilà, il est multiple, mais les gens l'aiment. Il y a quelque chose chez lui qui fait qu'il attire la sympathie, l'empathie. Il y a un mouvement pour le défendre.
D'ailleurs, en lien avec cette personnalité, il y a un autre thème sous-jacent dans le film, c'est celui du procès-spectacle, un peu, non?
En tout cas du procès de classe, c'est-à-dire que une certaine gauche de l'époque a pris fait et cause pour lui, ce qu'on appelle l'intelligentsia de gauche. Voilà, donc tout à coup il est devenu une espèce de coqueluche médiatique et des milieux intellectuels. Et en face, les témoins étaient des gens simples, ce qu'on appelle des gens simples, des gens qui viennent dire leur vérité et qui n'ont pas toujours les mots. Et il y a aussi un côté justice de classe, c'est vraiment l'intelligentsia parisienne qui arrive en province et qui dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Est-ce que vous vous êtes demandé, lorsque vous avez abordé ce sujet, si ce protagoniste, Pierre Goldman, était innocent ou coupable, ou vous êtes-vous imposé le parti pris du factuel pur et de l'impartialité?
Bah non, je suis comme n'importe qui assistera à ce procès. C'est la seule question qui est posée. Y a-t-il coupable ou non? Donc, évidemment, moi, je suis les débats, j'ai mes intuitions, je suis comme n'importe quel spectateur, mais... Mais par contre, ça c'est ma position d'être humain, mais en tant que metteur en scène, je voulais laisser l'espace plus grand possible à celui qui regarde. Donc je voulais qu'il soit dans la position du jury et qu'au fur et à mesure des débats, il entre dans cette affaire, dans cette enquête, qu'il se forge petit à petit une conviction et que surtout cette conviction puisse bouger au fur et à mesure des débats.
Vous venez de prononcer un mot qui me semble important, c'est le mot « enquête ». Je voulais savoir quelle avait été votre démarche avec votre co-scénariste Nathalie Herzberg, pardon si j'écorche son nom, concernant le travail de documentation et de reconstitution du procès. Comment avez-vous procédé?
La première démarche qu'on a faite, c'est d'essayer d'obtenir les minutes du procès, là, ce que les greffiers notent au fur et à mesure des débats, mais elles n'existaient pas. Enfin, on nous a dit qu'elles n'existaient pas, qu'à l'époque, les greffiers notaient pas ce qui se disait. Alors, on a reconstitué le procès avec des articles de journaux. Voilà. On a croisé tous les articles de journaux de façon à se rapprocher le plus possible du verbatim exact.
Est-ce que vous avez rencontré des protagonistes de l'époque?
J'ai rencontré Georges Kegeman et Francis Chouraqui, qui sont les deux avocats de la défense.
Alors, si vous en êtes d'accord, je voudrais à présent que nous abordions des questions plus sur la forme. C'est un film de procès, donc c'est forcément le huis clos d'une salle de tribunal. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dispositif de tournage?
La salle était pleine tout le temps. C'est vraiment ce que j'ai dit avec les producteurs. Je voulais pas que les acteurs jouent devant une salle vide. Je voulais vraiment. Pour moi, c'était pas pareil que les acteurs s'adressent à une salle ou que ça va juste à des caméras. Et les figurants, le public de notre procès ne connaissait pas le scénario. Ils connaissaient leur fonction. Ils savaient s'ils étaient des soutiens ou des anti-Goldman et ils étaient libres de leur réaction. Par contre, en face, les comédiens restaient strictement dans le texte. Voilà. Et on a tourné dans l'ordre de façon à ce que le public soit comme un vrai public de procès.
Et pour le coup, la mise en scène est très épurée, afin sûrement, enfin, en tout cas c'est l'interprétation que j'ai eue, de forcer un peu l'écoute du spectateur et le placer dans cette situation d'immersion, tout comme les figurants que vous venez
Absolument.
d'évoquer. En termes de placement de la caméra dans un espace clos comme ça, vous avez une réflexion particulière, le travail sur la lumière, le
Eh ben
cadre?
bizarrement non, c'est marrant parce que sur les films en général on prépare beaucoup le découpage, ce qu'on appelle le découpage, c'est-à-dire les positions de caméra. Et là non, en fait c'était très instinctif, c'était aussi très lié à la performance des acteurs. Dès que je voyais que ça avait bien joué, hop, je passais à quelqu'un d'autre en fait. Et si je voyais que j'avais pas encore tout à fait le jeu, ben je laissais une caméra et puis il y avait mes trois caméras en permanence, donc ce qui permettait de démultiplier les possibilités. Je tournais en fait, parce que tout l'exercice c'était que les caméras se filment pas elles-mêmes, quoi. Donc voilà, on tournait pour essayer de vraiment filmer tout le monde.
Comme si vous réalisiez en direct, en fait.
Un peu. On était à mi-chemin entre la mise en scène de film et la retransmission sportive.
C'est vrai que c'est sportif.
Voilà. Mais c'était génial, hein. Mais c'était vraiment de la captation, quoi. Je dis, ah, on va là, c'est bon, on a ce qu'il faut de ce côté à droite, maintenant on braque les caméras sur la gauche. Enfin. Et puis les comédiens rejouaient, parce que ça c'est le principe du cinéma, on joue pour soi, puis on joue pour les autres. Mais là, sauf que des fois il y a deux, trois comédiens, là ils étaient 100, 120 personnes à l'image en permanence, donc le temps de filmer tout le monde, il fallait rejouer très souvent.
Ce principe de captation que vous évoquez, on sent notamment à travers vos cadres, la netteté ou non des plans, des premiers plans. On a vraiment une amorce d'épaule floue et la netteté sur le locuteur auquel on fait face. Beaucoup de plans sur les visages, de l'assistance, des jurés, et on se rend compte qu'on réagit, nous, spectateurs, un peu comme eux. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'est la magie de l'instant?
Non, ouais, en tout cas, je voulais que ça soit très immersif. Ouais. Je voulais que les gens aient l'impression d'assister à un procès. On m'a raconté que dans les salles, quand le président dit des suspensions de séance, qu'il y a des gens qui ont envie de se lever, en fait. Tellement ils ont l'impression de plonger dans un procès. Voilà, et aussi, je voulais que rien dérange l'écoute, enfin, les débats, en tout cas. Je voulais pas tout à coup, y ait de la musique ou des flashbacks ou des choses comme ça qui seraient apparues comme des afféteries. Je voulais qu'on soit vraiment concentré, ouais, concentré sur l'affaire et qu'on ait vraiment tous les outils pour réfléchir.
C'est
Voilà,
intéressant ce que vous
mais c'est
dites.
vrai que pour moi c'était suffisant parce que c'est passionnant, c'est très riche, il y a beaucoup de points de vue qui s'affrontent. Il y a aussi de la joute, il y a du match verbal, donc c'est aussi assez distrayant en fait. C'est à la fois du théâtre et de la vérité. Hein.
On parlait tout à l'heure du choix de l'épure au niveau de l'image, mais c'est intéressant ce que vous disiez en parlant d'afféterie, le fait qu'il n'y ait pas de musique. Moi, j'ai constaté aussi une vraie place pour les silences. Il y a eu une vraie réflexion dans ce sens?
Il n'y a pas de montage son, c'est-à-dire que de même qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de sirène, d'ambiance, de toutes ces choses là qu'on rajoute dans les films. Et comme on n'a pas l'habitude, parce que comme les films sont gavés d'informations, finalement on a des acteurs, des visages et des acteurs qui parlent et des dialogues. Et en fait, comme c'est inhabituel, ça devient comme un style, alors qu'en fait c'est juste du on a juste retranché les choses.
Le reflet du réel.
Voilà.
J'imagine qu'il y a
Du
eu.
silence, de l'écoute, voilà. Les gens, voilà, sont installés et écoutent, ils sont pas distraits par mille choses.
Alors, vous avez fait au niveau visuel le choix du format 1,33, aussi appelé 4 tiers, ce qui signifie un cadre presque carré. Pourquoi?
Parce que j'aime beaucoup ça, c'était vraiment, c'était un vieux fantasme de faire un film en 4 tiers. Je trouve ça très agréable de cadrer les visages en 4 tiers, c'est comme des portraits, quoi. Et ensuite, je trouvais qu'on se rapprochait du format INA, quoi, des images d'archives. J'aimais bien, je trouvais que ça donnait un aspect documentaire au film.
C'est pas faux, on pourrait presque sentir le grain de la pellicule et le film se passant dans les années 70. J'imagine que vous avez fait un travail pour contextualiser cette époque.
Ouais, en tout cas, alors c'est à la fois un travail sur l'époque, mais aussi un travail pour qu'il n'y ait pas trop de distractions. On a enlevé beaucoup de couleurs. J'avais demandé à la costumière qu'il y ait très peu de couleurs dans les costumes. Et on a encore accentué ça à l'étalonnage. C'est la même chose que la musique, le son, le montage son. C'était pour qu'on soit le moins distrait possible.
Alors, on se rend compte de la difficulté à filmer un procès. Aviez-vous en tête des références filmiques, que ce soit en termes d'écriture ou de mise en scène?
Pas tant que ça, non. Pour moi, ce qui était important, c'était mon dispositif. Pour moi, c'était ça qui allait créer la mise en scène. Et après, c'était très instinctif, c'était vraiment des visages. J'ai mis un soin particulier à faire le casting.
Oui.
J'avais besoin d'être convaincu par chaque visage. Il fallait que chaque visage raconte une histoire, même un visage dans le public. On se dit, tiens, c'est un mec qui a fait des coups avec lui, tiens, c'est un Antillais, c'est un pote, tiens, lui c'est un mec d'extrême droite, tiens, lui c'est un étudiant d'Assas. Voilà. Je voulais déjà que les visages racontent quelque chose. Et après, je suis allé filmer ces visages, cette attention, et puis des acteurs principaux, enfin voilà, là, qui investissaient leur rôle.
Oui, en termes de casting, les personnalités sont très fortes à l'écran.
Ben, ce qu'il fallait, parce que il n'y avait rien d'autre. Il y avait des dialogues et des visages. Donc voilà, les comédiens sont pas connus, et ça, il faut pas que ça effraie les gens. Moi, je pense que c'est la force du film. Ça donne une
Je
crédibilité.
pense aussi, oui.
Ouais, on voit pas des acteurs performer, on voit vraiment des gens défendre des personnages. Pas les vrais protagonistes, c'est une mise en scène, c'est une reconstitution, mais par le biais de la magie du cinéma, on essaie de donner la sensation que c'est le plus réel possible.
Eh bien, j'espère que nous aurons su titiller la curiosité de nos auditeurs.
Et aussi que voilà, que c'est un fait divers qui a 50 ans, mais que c'est aussi très actuel. Ça raconte la sociologie des années 70, mais que cette sociologie, elle est aussi encore très, très vivace, quoi. Ça ressemble aussi beaucoup à la France d'aujourd'hui.
Est-ce que c'était un souhait dès le départ, cet écho par rapport à la société contemporaine, ou vous en êtes rendu compte en le faisant?
Commencé à se le dire en écrivant, et puis comme il y avait beaucoup de jeunes dans le procès qui jouaient des jeunes étudiants gauchistes, on s'est rendu compte que ça faisait écho, mais c'était pas si net au départ.
Eh bien, on va laisser le plaisir aux spectateurs de découvrir tout ça en salle. Merci beaucoup, Cédric Kahn, d'avoir répondu
Merci à vous.
à nos
Merci
questions
beaucoup.
pour Radio
Au
G.
revoir.
Et je
Au revoir
rappelle que
aussi.
votre film Le procès Goldman sort dans toutes les bonnes salles de cinéma ce mercredi 27 septembre 2023.
Parfait, merci, au revoir.
Merci, bonne soirée.